On va reparler de la frappe israélienne qui a touché Rafah, c'était dimanche, et l'Arabie Saoudite a fermement condamné Israël, l'accusant de commettre, je cite, des actes de génocide. Alors David Rigoulet-Rose, chercheur à l'IRIS et à l'Institut français d'analyse stratégique, ainsi que rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, répond aux questions de Blaise Van der Linden sur ce sujet pour le moins épineux, quand on sait que les pourparlers d'une normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite était en bonne voie. Est-ce que ce sera un frein ou bien ça ne changera rien? L'avis de David Rigoulet-Rose.
David Rigoulet-Rose, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Vous êtes chercheur à l'IRIS et à l'Institut français d'analyse stratégique ainsi que rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Alors, dans un communiqué particulièrement virulent après la frappe survenue sur Rafah dimanche soir, l'Arabie Saoudite a fermement condamné Israël, l'accusant de commettre des actes de génocide, je cite. David Rigoulet-Rose, c'est la première fois que l'Arabie Saoudite adopte une position aussi forte depuis le début de la guerre, non?
Oui, c'est la première fois que la terminologie est employée. Alors, c'est pas la première fois que le Royaume a émis des critiques, mais effectivement, elle est particulièrement marquée, cette critique. Alors, ils évoquent effectivement, je cite, des actes de génocide qui seraient commis par les forces d'occupation contre le peuple palestinien en attaquant les tentes de réfugiés sans défense à Rafah, fermer la parenthèse, et donc en tenant Israël pour responsable effectivement de tout ce qui se passe à Rafah et des violations, là encore je cite, flagrantes, contraires à toutes les lois et normes humanitaires. Je ferme les guillemets. Et donc c'est effectivement un communiqué qui est particulièrement sévère, qui s'inscrit évidemment dans l'indignation qu'a soulevé la frappe de l'armée israélienne justement à Rafah, en visant deux responsables du Hamas, et c'est aussi le reflet de l'indignation générale et tout particulièrement la prise en compte de l'émotion que ça peut susciter au sein des opinions publiques arabes et au sein de l'opinion publique du royaume. Donc il y a cette dimension qui est à prendre en compte, même si vous avez raison de souligner la sévérité. C'est d'autant plus paradoxal que ces dernières semaines, des négociations très étroites ont eu lieu entre Américains et Saoudiens sur la possibilité d'une normalisation qui ne serait pas définitivement hypothéquée, bien au contraire, puisque les négociations auraient été poussées très loin.
Justement, avant de revenir sur ce sujet de normalisation, j'aimerais vous poser une autre question vis-à-vis de ce communiqué. C'est un signe que l'Arabie Saoudite appelle maintenant Israël et la communauté internationale, dont les États-Unis, à accélérer sur les négociations en cours pour libérer les otages et pour un cessez-le-feu?
Oui, il y a une pression accrue. Mais de toute façon, il y a eu un tournant avec le 7 octobre, hein, qui effectivement a obligé les gouvernements arabes à faire montre d'une fermeté accrue, même si en creux il y a aussi une forme de prudence de leur part, hein, parce que ces gouvernements sont travaillés par des contradictions. Mais on peut rappeler le communiqué officiel publié par le 7 février dernier du même ministère saoudien des Affaires étrangères, qui appelait à la reconnaissance d'un État palestinien indépendant dans les frontières de 67 avec Jérusalem est comme capitale, et ce qui reprenait en fait le viatique qui avait été défini par le plan saoudien de feu le roi Abdallah, hein, au moment de la Ligue arabe, du sommet de la Ligue arabe de Beyrouth le 28 mars 2002. Donc il y a un positionnement ou un repositionnement en fait du royaume, parce qu'il peut pas faire autrement de toute façon. Et en même temps, c'est une manière de faire pression, oui, dans une logique effectivement transactionnelle avec les Américains, et une logique de pression et de prise en compte des opinions publiques.
Alors, vous mentionniez cette période de négociation autour des normalisations. Cette déclaration, ce communiqué, quelle place prend-il dans cette normalisation? C'est un arrêt complet?
Non, c'est pas un arrêt, mais d'une certaine manière, ça rehausse la barre par rapport au processus qui n'est pas officiel, mais qui n'a jamais été annulé. On peut rappeler d'ailleurs que avant la tragédie du 7 octobre, dans une interview à Fox News le 20 septembre 2023, le prince héritier évoquait déjà le fait que il y avait un rapprochement qui était très 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 approfondi et qu'il y avait un certain nombre de conditions qui étaient à remplir, et notamment il rappelait la cause palestinienne parce que il était obligé d'en tenir compte. Et là, il se trouve que de ces dernières semaines, il y a eu deux voyages très importants. Il y a eu celui d'Anthony Blinken fin avril qui évoquait effectivement le possible aboutissement des négociations qui serait très proche, et on était avant les événements qui viennent de se produire à Rafah, et surtout la visite de Jake Sullivan le 19 mai dernier qui parlait d'une vision quasi finalisée d'un accord entre les États-Unis et le Royaume d'Arabie Saoudite, d'un accord stratégique entre les deux pays. Et là, c'était pas directement la question d'un État palestinien, mais en réalité, les deux sont liés. Et d'ailleurs, dans les verbatims qui sont sortis, il y a eu la presse a relayé le fait que les deux parties auraient discuté du travail mené sur la question palestinienne pour trouver une voie crédible vers une solution qui répondrait aux aspirations, je cite, du peuple palestinien et de ses droits légitimes. Et dans le cadre de cet accord, évidemment, il y a la demande expresse par l'Arabie Saoudite d'un accord de sécurité renforcé avec Washington, une aide au développement du programme nucléaire civil, mais en réalité, comme le dit le conseiller à la sécurité nationale américaine Jack Sullivan, il y a une vision intégrée en réalité qui articule la problématique à Gaza et la possible finalisation d'un accord.
Question peut-être un peu naïve, David Rigoulet-Rose, mais que gagnent les États-Unis dans ces négociations entre Riyad et Jérusalem ?
Les États-Unis, depuis le début, et ça, on a beaucoup glosé sur le retrait américain de la région du Moyen-Orient, les États-Unis qui ont en ligne de mire la question de l'Asie-Pacifique, c'est leur obsession, hein, c'est le pivot vers l'Asie, souhaitent pouvoir se décharger du poids de la responsabilité sécuritaire du Moyen-Orient en mettant en place une infrastructure de sécurité qui associerait Israël et les royaumes et les pétromonarchies du Golfe, évidemment pour faire face à la supposée menace iranienne. Donc il y a cette dimension pour les Américains, et c'est aussi l'idée que cette normalisation, ce rapprochement entre Israël et les pays du Golfe, et en particulier avec l'Arabie Saoudite, serait un élément qui serait favorable justement aussi pour la relance d'un processus palestinien. Et d'ailleurs dans le Financial Times, le même Jake Sullivan qui parle de vision intégrée en parlant de l'entente bilatérale entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, estime que ça doit être combiné à une normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite, et que tous ces éléments doivent être réunis, qu'il est impossible de les dissocier les uns des autres. C'est ça qui est intéressant, parce que d'une certaine manière, c'est donner une carotte à l'Arabie Saoudite et à Israël. C'est une manière de pousser l'Arabie Saoudite à se rapprocher en échange d'un accord sécuritaire avec les Américains, mais c'est aussi un message à Israël en disant si vous voulez une normalisation avec l'Arabie Saoudite, ça passera aussi par la prise en compte de la problématique palestinienne.
Pour terminer, on sait que cela tient à l'Arabie Saoudite, cette cause palestinienne, mais quelle est leur vision sur le sort des otages ?
Ah, la question des otages, c'est surtout un problème, c'est pas spécialement un problème saoudien, c'est surtout un problème israélien, on imagine bien, et puis des pays concernés qui ont des otages. En revanche, depuis plusieurs mois, le prince Mohammed bin Salman a l'ambition de devenir un médiateur. De toute façon, dans les crises, on l'a vu à propos de l'Ukraine, et là, ça se manifeste également de manière discrète, mais réelle, dans le cadre de la guerre à Gaza, même si les négociateurs attitrés sont essentiellement, évidemment, l'Égypte et le Qatar. Donc, il y a un ensemble de paramètres en fait qui s'ajoutent, qui essaient de surmonter les contradictions qui traversent tous les acteurs.
David Rigoulet-Rose, je rappelle que vous êtes chercheur à l'IRIS, à l'Institut français d'analyse stratégique, ainsi que rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Merci d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka.
Merci.